Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, puis 21h. Marie Richard.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
J'ai toujours appartenu à un lieu. Mettez-moi n'importe où, dans un endroit sec, absolument désertique, mort, caillouteux, où personne ne veut vivre, et je commencerai à pousser, à m'imbiber, comme une éponge. Pas d'internationalisme abstrait pour moi, je ne place pas non plus mes espoirs dans l'avenir, je suis de maintenant et d'ici. Est-ce parce que j'ai été arrachée de chez moi par la force? Est-ce pour cela que j'ai toujours éprouvé le besoin d'un nouveau foyer, d'un nouveau pays? Parce qu'en réalité, je n'appartiens qu'à un lieu, qu'à ce lieu que fut mon enfance et qui s'en est allé pour toujours. Voilà la question que vous vous posiez à vous-même, le 8 novembre 1958, Jonas Mekas. Jonas Mekas, bonsoir et merci d'être là. Le temps passe et il est rempli de rencontres. Quelques-unes d'entre elles sont racontées en texte et en images dans le livre « A Dance with Fred Astaire » publié aux éditions Anthologie. Bonsoir donc, et votre voix sera traduite par Xavier Combes. Merci à lui. À la fin de ce livre, Jonas Mekas, vous donnez des conseils aux jeunes amateurs d'archéologie, aux jeunes diggers. Quels conseils leur donnez-vous?
I usually say I have no advice for anybody.
Généralement, je dis que je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. En effet, lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, il faut faire ce que l'on aime faire. Et quand on fait ce que l'on aime faire, on découvre que les choses sont comme un processus. Ce que l'on fait, ce que l'on apprend, à chaque fois, cela doit être une découverte, une sorte de processus. C'est pourquoi ce n'est pas toujours la meilleure chose que de donner des conseils. Les conseils, ça empêche l'autre d'envisager de nouvelles directions, directions dans laquelle on peut trouver des découvertes, un cheminement qui permet de révéler de nouvelles choses et qui vous enrichit. Et c'est ainsi qu'il faut procéder.
Et pourtant, vous leur donnez quand même des conseils aux jeunes diggers à la fin de ce gros livre et vous leur racontez une anecdote, celle de votre premier diary, votre premier journal intime, enterré et un jour peut-être déterré ou alors perdu dans la terre. Jonas Mekas, est-ce que vous nous racontez l'aventure de ce premier journal intime ?
Yes, I began keeping a diary when I did not know how to write.
J'ai commencé à tenir un journal alors que je ne savais pas écrire. C'était un journal fait de dessins. J'aimerais bien retrouver ces premiers documents. Mais lorsque j'ai dû partir très vite parce que l'armée soviétique arrivait, il a fallu que j'enterre tout cela. Et étant donné qu'il m'a été impossible de revenir pour retrouver ces documents, j'imagine qu'ils ont pourri. J'ai dû les enterrer parce que, comme je vous l'ai dit, ces documents datent d'avant mon apprentissage de l'écriture. Par la suite, j'ai appris à écrire, bien sûr, et comme de nombreux jeunes, je me suis lancé dans des activités underground contre les soviétiques, notamment. Dans mon journal, il y a des détails très, très intéressants. Quand on est jeune, on est naïf, vous savez, et parfois, on écrit sans penser que quelqu'un d'autre pourra lire ce que vous écrivez. Évidemment, les soviétiques ne se sont pas gênés. Ils ont lu tout ce qui leur est tombé sous les yeux, et ils ont ainsi pu découvrir pas mal de choses. Est-ce qu'on était avec eux ou contre eux? Donc c'est pour ça que j'ai dû enterrer mes journaux intimes, oui. Et ils ont pourri. Peut-être qu'ils sont quelque part, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un les retrouvera un jour. Mais lorsque j'ai enfin eu le droit de revenir chez moi, j'ai retrouvé un immeuble par-dessus la parcelle de terre où j'ai enterré mes journaux. Donc, à vrai dire, je ne sais pas très bien ce qu'ils sont devenus.
Dans ces journaux, dont je lisais un extrait en introduction, le 8 novembre 1958, vous dites que s'il y a un lieu auquel vous appartenez, c'est le lieu que fut votre enfance et qui s'en est allé pour toujours. Quelques 60 ans plus tard, est-ce que vous diriez que vous appartenez encore au lieu de votre enfance, Jonas Mekas?
I traveled a long way and many different roads.
J'ai beaucoup voyagé et j'ai emprunté de nombreux chemins depuis mon enfance. Et je me trouve à un endroit complètement différent de celui de mon enfance aujourd'hui.
My little village was home.
Mon petit village, c'était chez moi au début. Puis c'est la civilisation occidentale qui est devenue mon chez-moi. Puis, je me suis dit que la civilisation occidentale m'avait dépossédé de mon chez-moi. La Lituanie est en partie dans le giron soviétique. Il y a eu les camps de travaux forcés en Allemagne. Et puis j'étais dans des camps de gens déplacés. Et j'ai vécu cette déception. Et celle-ci a fait de moi une mosaïque de différentes personnes. Je n'étais plus monolithique, si vous voulez. J'étais complètement décomposé. Bref, je suis arrivé à New York et j'ai commencé à remettre en place les morceaux de mon être. Le cinéma est venu à moi et je me suis dit, eh bien, c'est le cinéma qui sera mon chez-moi, c'est le cinéma qui sera ma patrie. La civilisation, la culture, le cinéma. Et désormais, je crois que je suis chez moi partout. Mettez-moi n'importe où, deux ou trois jours plus tard, je me sentirai chez moi.
Welcome.
Musique de la rue, le 22 décembre 1980, Rockefeller Center, New York City. Cigale en Provence, 1967. Cloche d'église de Venasque, 1974. Una, âgée de quelques semaines, 1974. Jonas joue de l'accordéon.
Signore et signori, vous avez compris. comme marchandise. Qu'est-ce que c'est comme marchandise?
C'est un Agra, un appareil d'enregistrement.
Il y a juste un appareil?
Il y a les micros qui l'accompagnent, mais en fait, on fait une émission sur le Nagra.
Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods. Trade description of goods and marks and numbers, if any. Magnétophone Nagra 4S, numéro 3328. Number 1. Weight, poids, 8 kilos. Value, 36 000 francs. Country of origin, Suisse.
La Suisse, si moi je ne prends pas en charge, ils ne vont pas le prendre non plus.
Ouais.
Avant de partir, vous allez dans un bureau de douane, ils vous prennent en charge.
Il y avait
le carnet là, vous allez vérifier sur place, et nous à la frontière, on fait simplement la formalité de sortie.
Parce qu'en fait, l'objet de l'émission, c'est le Nagra lui-même. On fait un travail sur le Nagra.
Le problème, c'est soit un Nagra ou n'importe quoi, on s'en fout.
Jonas Mekas, on entend dans un premier temps le journal sonore qui avait été diffusé sur France Culture en 2003 et ensuite un documentaire signé Yann Parent-Owen sur le Nagra lui-même, cet appareil qui enregistre le son. Avant qu'on ne commence l'émission, notre entretien, vous avez sorti de votre poche un tout petit appareil qui enregistre des sons et enregistre des images. La manière d'enregistrer les sons, pour vous, a été toujours presque quasiment aussi importante que celle de fabriquer des images avec votre caméra. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous?
Most of my early filming in the 60s, 70s,
dans la plupart de mes premiers films, dans les années 60, 70 et 80, j'utilise une caméra Bolex. Cette caméra n'enregistre pas le son. Elle fait du bruit, elle fait un bruit d'enfer, mais elle n'enregistre pas le son. Donc, au cas où, j'avais toujours auprès de moi un petit enregistreur Sony. Je l'avais dans ma poche, et lorsque j'entendais quelque chose qui pourrait m'intéresser, même si la raison est inexpliquée, parfois on entend un son qui peut être intéressant, je sors ce petit enregistreur de ma poche et j'enregistre le son. Donc j'étais toujours accompagné de ma caméra Bolex et de mon enregistreur Sony. Je les avais toujours auprès de moi. Ces deux appareils étaient tous les deux importants pour moi. Dans votre extrait sonore, on entend un petit extrait qui constitue une sorte d'autobiographie sonore. J'ai enregistré un ou deux sons, par an, donc c'est une espèce d'échantillonnage, et ça couvre une période de 30 ans, voire davantage. Il doit y avoir 75 petits extraits sonores, imaginez avec deux extraits par an.
And I dedicated it to Petrarca.
Et j'ai dédié ça à Petrarque.
I consider him like a
je le brother exile
poet.
Comme un poète
who also
exilé
had to escape from his,
qui serait un frère.
Home and
il a dû fuir sa patrie à pied.
Arrived somewhere in Provence.
Pour arriver en Provence.
Vous dites que c'est aussi important l'enregistrement du son et l'enregistrement des images. Est-ce que la puissance d'évocation des souvenirs est la même lorsqu'on entend là des cigales, des cloches, les rues de New York ou la voix de Una? Est-ce que ça procure la même sensation en vous que lorsque vous voyez des images de tout ça?
Oui,
quand je regarde mes films ou lorsque j'écoute les sons que j'ai enregistrés, bien entendu, cela m'évoque le moment de tournage ou le moment d'enregistrement.
And of course, My editing usually takes place
Je fais le montage bien
later.
Des années plus tard, en général. Donc, lorsque je rassemble les images, en même temps, j'écoute tous ces sons que j'ai enregistrés. Et parfois, je les exploite, non pas à titre d'illustration, mais chaque son constitue un morceau ou une mini-œuvre en soi. Et les choses sont d'égale importance, qu'il s'agisse de sons ou d'images.
Beaucoup des gens qui ont été inspirés par le son de M.I.T., je crois. je crois que c'était la plus forte conception et plus forte émotion de ce qu'on appelle Generation Beat, Beat Generation. C'était la M.I.T. entre les poètes. L'idée d'affection aussi, c'était une idée introduite aux États-Unis dans la poésie par Walt Whitman. Mais cette chose d'affection, c'est la base des idées. Everybody just a little bit homosexual, whether they like it or not. Pom pom. Everybody's got a little bit of da 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 da. Even if they almost forgot, boom, boom, everybody goes a little bit sweet-hearted for a poor freckled sun-faced lad.
On parlait de la puissance d'évocation du son avec vous, Jonas Mekas. Ici, ce sont deux archives d'Allen Ginsberg. Dans un premier temps, il parle de l'affection, de l'amitié, de la communauté d'amitié qui l'unissait aux artistes et aux poètes, notamment autour de la Beat Generation. Et puis on entend ensuite chanter cette merveilleuse petite chanson. Dans le livre qui fait qu'on a la chance de vous recevoir ce soir, il est beaucoup question de ça, d'amitié. Et même dans certains de vos films, par exemple, j'ai en tête un film où vous êtes à New York, c'est une
après-midi.
D'ailleurs, hier, je me suis rendu dans la petite rue où William Burroughs et Allen Ginsberg ont séjourné et écrit. C'est là que William Burroughs a écrit Le Festin nu et Kaddish, donc deux œuvres très importantes. Donc je suis allé leur rendre hommage sur place à Paris.
And not every when people when they write now biographies there is a lot of written.
Et dans les biographies de Burroughs,
it's very seldom that they mention this aspect.
C'est rare que l'on explique que Burroughs ou Ginsberg aient séjourné à Paris 2-3 ans. Alors que Allen Ginsberg, lui, avait un personnage très important pour lui à Paris, c'était Apollinaire. Et là, je l'entends parler français grâce à vous, Allen Ginsberg. Mais je vous ai interrompu.
C'est pas très grave. C'était pour vous poser la question de l'amitié. Je disais, dans cette archive, on entend Ginsberg parler de l'affection et de l'amitié. Et dans ce livre-là, qui est composé de photographies et de textes, Jonas Mekas, il n'est question quasiment que de ça, d'affection et d'amitié, notamment à l'égard d'Allen Ginsberg. Ginsberg qui dit que l'affection est à l'origine de toutes les idées. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus ?
Ginsberg speaks about the importance of affection and friendship, which you deal with at great length in your book, and everything has to do with affection and friendship, according to him. Do you agree?
Yes, very much. And
oui, je suis d'accord avec lui.
There was a lot of this of friendship and working together.
Cette amitié et cette collaboration, c'était très présent dans les années 50, 60, 70.
That intensity and
par la suite, en revanche, l'intensité de ces relations et ces liens d'amitié se sont estompés. Ce genre de relation, je ne la vois plus entre artistes de disciplines différentes, artistes qui se rencontrent et discutent. Aujourd'hui, les choses sont plus diffuses. Il n'y a plus un lieu où l'intensité et la passion se rencontrent. Aujourd'hui, l'art est tellement accessible par Internet, donc tout a changé, nous sommes ailleurs.
On one hand, we It's easier to be very personal
d'une part,
through the internet,
on peut dire qu'on peut échanger de manière intime et personnelle grâce à Internet, beaucoup plus que dans les années 60, mais c'est le contraire en dehors d'Internet.
Ces
liens personnels de travail se sont estompés, il y a plus de distance, ces choses sont devenues plus abstraites dans les relations entre les artistes. C'est ma perception, hein. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait juste, mais c'est ainsi que je vois les choses. Peut-être est-ce temporaire.
Digital on
accorde une telle confiance aux outils numériques,
mais
peut-être qu'un jour on arrivera à rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, les choses sont déséquilibrées, à mon sens.
Dans ce livre, vous parlez justement, vous parlez de contact amical, vous parlez d'un des derniers coups de fil que vous passe Allen Ginsberg et vous racontez « J'entends sa voix et elle est de plus en plus faible, il apprend qu'il va mourir ». Et en fait, ce livre n'est composé que ça, que de ça, que de petits moments de votre vie très importants manifestement, Jonas Mekas, comme le dernier coup de fil de Ginsberg ou comme votre rencontre avec d'autres personnes. Comment les avez-vous choisis ?
Your book is made up of small moments in your life that are very important to you, like, for example, your last phone call with Allen Ginsberg. How did you choose all these small moments in your life to make the book?
See, the book is a kind of autobiography in form of anecdotes or
memories. Le livre est une sorte d'autobiographie sous forme de souvenirs ou d'anecdotes. Généralement, les moments que j'ai choisis sont extraits de conversations avec des amis, où l'on passe une bonne soirée, on boit du vin, on échange des idées, et les souvenirs reviennent.
Les
souvenirs que j'évoque dans le livre sont issus de conversations. Un jour, je me suis dit que plutôt que d'en parler comme ça en soirée, je devrais mettre ça sur papier. Tout cela couvre une période de 10 ou 15 ans. Je ne me suis pas un jour assis et tout écrit, non. Puis, j'ai rassemblé 150 morceaux à peu près. Et puis, je me suis dit, bon, je vais en faire un livre.
So, and that's how it the book originated.
Et
so,
voilà l'origine du livre. Donc ça reflète la période, il y en a plusieurs, et les personnalités, there are, you know, pas simplement des artistes ou des cinéastes. Il y a une galerie de personnages. En effet, au cours de ma vie, j'ai fait de nombreuses choses et j'ai rencontré de nombreuses personnes. Il y a des différences entre Warhol, Jackie Onassis, Salvador Dali ou Allen Ginsberg, vous voyez, ne sont pas des personnalités identiques. Et il y a des gens inconnus aussi.
Donc,
je pense que ça donne une bonne idée, non seulement de ma vie, mais ça donne une espèce de peinture de cette époque, des années 50 et 60. Et on voit comment les gens, à l'époque, réagissaient à la société, réagissaient à la censure. Je relate mon arrestation, par exemple. J'explique comment j'ai dû couper Chant d'amour de Genet. J'ai dû le découper pour le mettre dans mes poches de mon imperméable. Et pour aller de Paris à New York, je n'ai pas pris le chemin direct, j'ai dû passer par Londres, parce que lorsque l'on vient de Londres pour aller à New York, on vous fouillait moins. De Paris à New York, à l'époque, ils partaient du principe que les voyageurs apportaient des obscénités, qu'ils avaient des obscénités plein les poches. Plusieurs fois, on a confisqué les publications Olympia.
qui était donc l'éditeur
du Festin Nu. Donc, j'ai dû faire ce détour par Londres pour arriver à New York avec le film de Jeunet dans les poches.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Janvier 1948. Adolphas est rentré et a dit « Gandhi a été assassiné ». C'est tout. Difficile à croire. Mais les journaux en font leur gros titre. C'est donc vrai. 7 novembre 1948. Je les ai entendus chanter. Un soir. Un soir d'une pâleur incroyable. Au beau milieu de l'été. Après la journée de labeur, quand on n'entend plus les sauts et les portes des étables, quand seules les stridulations des insectes nocturnes et les ailes des chauves-souris fendent l'air. Ils se tenaient sous le bosquet de lilas, dans la tiédeur du soir, et ils chantaient. Ah, ces chansons, ces modestes chansons, leurs paroles, comme des perles d'ambre enfilées en collier. Ai-je jamais entendu ailleurs quelqu'un chanter de la sorte, avec des inflexions si tristes et rêveuses? Dans les champs, en rentrant du travail, par les nuits d'été. Ah, il ne cesse de me revenir désormais, ces soirs d'été, ces nuits au ciel pâle et rempli d'étoiles. Nous nous asseyons sous le tilleul, sur un banc de bois, les buissons d'armoises sentent si bon dans la tiédeur du soir, et nous chantions. 28 juillet 1949, j'emporte mon linge sale chez le teinturier. Je dépose mon sac à terre et lui tends la liste de ce qu'il contient. « Non, me disent-ils, pas de liste. Videz le sac et triez tout par pile. » Je suis embarrassée, la sueur dégouline sur mon visage. « Il fait chaud aujourd'hui. Ya, ya, » parviens-je à marmonner. Je m'étais dit que si je leur donnais une liste, ils n'auraient pas à examiner le contenu du sac. Mon linge est si sale et si élimé. J'ai remarqué que les autres apportent le leur pratiquement propre, alors que mes vêtements sont imprégnés de transpiration et de crasse. Noir ou marron, roulé en boule, je suis affreusement gênée. La sueur coule à grosses gouttes le long de mon nez. Non daté 1950. Ce matin, il y avait du Bach à la radio. Je suis restée là à écouter cette grande musique qui envahissait ma chambre. J'avais envie que ma vie soit comme elle, comme une magnifique fugue. C'est ça le pouvoir de l'art. Imitation de l'art, imitation du Christ. Non daté 1950. Maintenant, tout s'éclaircit pour moi. J'ai bien dormi les deux nuits passées. Il y avait tant d'années que je n'avais pas connu cela. La dernière fois, c'était dans la fraîcheur de ma chambre d'enfant. Pourtant, hier, je doutais de tout. Rien n'est stable. Et je vacillais, vacillais, sans m'effondrer. Jonas Mekas, c'est un extrait de votre journal « Je n'avais nulle part où aller », traduit de l'américain par Jean-Luc Mengus. Ici, quelques images. Alors, on a parlé du son, on a parlé des images filmées. Vous écrivez aussi des formes d'images avec l'écriture. Quelle place ça a ou quelle place ça a eu dans votre pratique?
When I film, I react like in immediate surroundings.
Quand je filme,
what is happening,
je réagis à l'environnement dans lequel l'action se déroule. L'objectif ne peut saisir que ce qui se passe à ce moment-là et à cet endroit-là. Donc c'est une sorte de réalité. C'est la réalité à laquelle je réagis. Parfois, je dis que tourner un film, pour moi, c'est comme du kung-fu. Il s'agit de réagir à ce que l'on vous fait. L'écriture, ça fait travailler l'esprit, la mémoire. Il s'agit de relater une réalité dépassée. On se retrouve ailleurs et il faut refléter ce qui est déjà passé. Il ne s'agit pas d'enregistrer l'action au moment où elle a lieu. Lorsque l'on écrit une carte postale, c'est un petit peu similaire au cinéma. La carte postale exige la concision. Il faut condenser la réalité. C'est un petit peu comme faire du cinéma. Mais lorsque l'on écrit, non pas une carte postale, mais une lettre, là, on regarde en arrière, on se souvient de certaines choses et on réfléchit. Dans une carte postale, on écrit et on invente ce que l'on écrit. C'est un petit peu comme un collage des moments instantanés que l'on veut relater de manière très concise. Mes films révèlent un aspect de ma vie, l'écriture, quant à elle, révèle un aspect différent de ma vie. Et il y a le son aussi. Évidemment, il faut enregistrer le son au moment où il se produit. Donc là, c'est proche de la caméra. Mais il s'agit d'un aspect différent de la réalité. Ainsi, ces trois formes, ces trois exercices peuvent se rassembler. Alors, encore une fois, s'agissant de l'écriture, écrire de la poésie ou écrire un journal intime, ce n'est pas la même chose. Toutes ces réalités différentes, il faut les saisir dans trois, quatre, voire cinq dimensions pour avoir une vue de ce que je suis dans une sorte de prisme.
Dans le dernier extrait de votre journal que je lisais, c'était un extrait non daté de l'année 1950 et il était question de l'instabilité des choses. Vous dites, ça fait bien longtemps que je n'ai pas dormi comme ça, peut-être depuis la fraîcheur de ma chambre d'enfant. Et hier, je doutais de tout, j'ai beaucoup vacillé et aujourd'hui, ça va. Est-ce que vous diriez que finalement, votre vie, longue vie, Jonas Mekas, a été faite de petits moments comme ça, de petits moments de doute, de petits moments d'épiphanie, de petits moments de bonheur, tels qu'elle nous apparaît comme ça, à la fois morcelé et très relié.
Le
romancier prend son
temps.
Le roman, c'est horizontal. Il y a le passé, l'avenir, le présent, que l'on peut certes mélanger, mais le poète, lui, le poète ne connaît pas la continuité. Il passe brusquement d'un état à l'autre. Même dans un poème très court, dans un haïku, par exemple, le principe même du haïku veut qu'il y ait le personnage et la nature au dehors, et on passe de l'un à l'autre. Il y a des réalités différentes qui fusionnent de manière très condensée. Ainsi, mes films sont donc un petit peu comme des séries de haïkus, de petits poèmes. Certains sont très courts, d'autres le sont moins. Mais je ne me considère pas comme un artiste abstrait. Je m'intéresse aux gens, aux émotions, à la nature autour de moi.
So that the if you string all my films together, it becomes like
si l'on juxtaposait tous mes films, ce serait une épopée sur moi, mes amis et les gens que j'ai rencontrés. J'essaye de dépeindre leurs émotions. Dans mes films, les gens naissent, ils vivent, ils meurent. C'est une immense épopée. Il y a des personnages, des présidents, des citoyens ordinaires qui manifestent. C'est comme une épopée homérienne. Il y a 200, 300 personnages. C'est comme chez Homer. Il y a des dieux, des demi-dieux. La tragédie se déroule et au bout du compte, le moment de la fin arrive avec donc les résolutions des Nations Unies. Donc tout ça pour dire que moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là pour enregistrer, notamment avec des images de la télévision, à mesure que les événements se déroulent. C'est l'histoire, certes, mais il y a pas mal de ces images qui n'existent plus parce que les chaînes de télévision gardent les images pendant un an pour les détruire par la suite. Donc les sources de ces images sont très objectives car elles sont en dehors de moi. Donc ce film-là constitue quelque chose de différent dans ce que j'ai fait. Mais cela dit, je ne suis pas totalement absent parce que lorsque j'enregistre, il y a mes enfants, par exemple, et il s'agit de la vie réelle et personnelle que j'enregistre. Donc je suis présent dans ces cas-là.
Mon père m'a dit un jour que j'étais en légère errance, « Écoute-moi bien, fils, aujourd'hui, quand on veut la lune, on n'est pas poète, on est cosmonaute. » Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Je regarde si je vois pas la maison et je prends le temps de t'écrire pour te dire que t'avais raison. Mon scaphandre, il est pas nouveau, mais il sent très bon la sueur. Je te salue de chez mon boulot, le front déposé sur ton cœur. La bande à collègues et puis moi, on est content d'être cosmonautes. Au début, on avait les foies, mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur, mais d'Armentière à Baïkonour, j'ai tenté de jolier les heures, sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme, le plaisir que j'ai à divertir. Et salue ma maman, ta femme.
Dans cette chanson, Loïc Lantoine s'adresse à son papa qui lui a conseillé pour atteindre la lune, non pas d'être poète, mais d'être cosmonaute. Et à la fin de votre livre, Jonas Mekas, j'ai été très émue de trouver une très ancienne photo de vos deux parents, après avoir vu défiler une très grande partie de la scène artistique, intellectuelle, de la vivacité des rues des années 50 et des années 60 et des années 70. Pourquoi est-ce que cette petite photo, je vais vous la donner pour que vous l'ayez sous les yeux, pourquoi devait-elle figurer là ?
That was, if I'm not wrong, is the first, the very first photograph.
Sauf erreur de ma part, c'est la première photo que j'ai prise et qui a survécu.
Second take. The first,
en fait, c'est la seconde prise. J'ai reçu mon premier appareil photo de la part d'un de mes frères aînés. Je me souviens un peu de l'occasion, parce qu'en Lituanie, du moins dans la région d'où je viens, on ne célèbre pas les anniversaires, mais les fêtes. Et moi, ma fête correspond au solstice d'été. Donc, c'est ce jour-là que mon frère, un de mes frères aînés m'a donné mon premier appareil photo. À cette époque, l'armée soviétique était en train d'arriver en Lituanie. C'était donc l'occupation soviétique. Et moi, je me suis dit, eh bien voilà, c'est l'occasion de m'en servir. Les chars arrivaient, soulevant la poussière sur les chemins de campagne. Il n'y avait pas de route à l'époque. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre ma première photo. Donc, je cours vers le chemin. Tout le monde sait ce que signifie l'occupation. Mais moi, non, j'étais naïf. Pour moi, c'était un événement pour moi. Donc, mais je ne m'en rendais pas très bien compte des tenants et des aboutissants. Donc, j'arrive là, et là, j'ai pris ma première photo, et j'étais ravi, c'était un moment très heureux pour moi. Et dès que j'ai appuyé sur le déclencheur, un soldat gradé se précipite sur moi, m'arrache l'appareil photo, en arrache la pellicule, la jette dans la poussière et la piétine de ses bottes.
And points to the house, points to me.
Et il me montre du doigt en disant, espèce de gamin imbécile, va-t'en, va chez toi. Il aurait pu faire bien pire, il aurait pu me tirer dessus. Mais il s'est dit, bon, ce petit gamin, c'est un imbécile. Il m'a dit, va-t'en.
So that's where my first photograph ended.
Donc voilà, ça c'était ma première photo. Elle a terminé dans la poussière, sous les bottes d'un gradé de l'armée soviétique.
Et elle termine aussi ce
and
très gros livre.
That is in the book with the,
mais cette
with
photo,
the ram,
si.
The sheep, my mother and my father.
Où l'on voit mes parents, c'est une photo qui date de la même époque, mais elle a survécu, celle-ci.
Et elle termine votre livre comme si, Jonas Mekas, vous ne les quittiez pas des yeux. À la fois ses deux parents, peut-être aussi ce lieu, peut-être aussi ce soldat, peut-être aussi la joie naïve de la première ou des premières photographies.
Oui, je termine le livre par le début, en effet, mes parents. Mon premier film, c'était lorsque, à l'époque de l'école primaire, je devais avoir 13, 14 ans. Mais là, on parle de photos. Hein.
Mais je répète juste la question, c'est comme si vous ne les quittiez pas des yeux.
You see, you're still looking at them and they're still looking at you. So, do you agree with that?
Yes, the photographs remain.
Oui, c'est vrai.
I continued also
les
in displaced
photos perdurent.
In the last, the, some of them were shown.
Il y a des photos que j'ai prises dans des camps et qui ont été exposées. C'est vrai que
as it happened,
j'ai fait pas mal de photos.
I spent 3 years
j'ai passé
in the suburb
trois
of Kass,
ans
and
dans
those photographs
la banlieue
that were shown at the Documenta, Kass,
du Documenta, camp. Et les photos qui ont été exposées ont également été prises
in the suburbs.
Dans, les,
now,
dans la banlieue.
Suburb during
cette
last, banlieue four, decades have merged, have become part of Kass,
a beaucoup changé, ça fait partie de Kasten aujourd'hui. Les banlieues ont fusionné entre elles.
And nobody even knows now
personne
that right there in
ne sait que là, dans la banlieue, il y avait un camp. Un camp avec 5 ou 6 000 personnes qui sont restées là pendant 5 ou 6 ans.
J'ai plutôt tendance à penser le mieux possible. Là, j'essaye de même de penser souvent sans prendre de notes et de prendre des notes à partir du moment où, si j'ose dire, la salade était suffisamment remuée. Et puis après, quand on a 5 ou 6 personnes minimum autour de soi, qu'on est là, j'avais mis dans Mozart un moment, souvent je ne sais pas trop bien quoi faire. Quand je sais quoi faire, je le dis tout de suite. On met la caméra là, tu te mets là, je donne peu d'indications. des indications de place et puis j'essaye de surveiller. Ça, c'est du très, 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 très classique. L'approche, peut-être, ne l'est pas, mais la fabrication du plan l'est. Quand je ne sais pas, je me souviens d'une boutade de John Ford, il arrivait quelque part, il disait mettez ça là, il ne savait absolument pas, ça prend une heure à faire, on est tranquille pour réfléchir un peu, les enfants sont occupés. Mais le plan lui-même, ça, c'est de la pensée. Je pense que ça doit être plus près du peintre et de la construction du roman. Il y a des romanciers qui font des plans de construction, il y en a qui n'en font pas.
On entendait dans cette archive la voix de Jean-Luc Godard parler dans un dernier temps du rapport entre faire des films et écrire des romans, comme vous le faisiez plus tôt, Jonas Mekas. Mais ce qui m'intéresse dans cette archive, c'est la manière dont il parle de la solitude et du travail avec les autres. Le livre où on voit tant d'amis, tant de personnes photographiées et tant d'anecdotes écrites, laisse avoir une vie où vous avez été très entouré. Est-ce que c'est une apparence? Avez-vous été très entouré ou avez-vous été parfois seul, Jonas Mekas?
But you see, Godard and most of the narrative filmmakers, they have scripts.
Godard et les cinéastes qui travaillent comme lui,
they write scripts, they place the camera with the world to get the best angle,
ils placent la caméra dans le meilleur angle avec le meilleur éclairage.
What that is happening around me, and I don't plan.
Mais moi, je filme la vie autour de moi. Je ne recherche pas l'angle parfait. La plupart du temps, je filmais avec ma Bolex, avec un téléobjectif, où il n'y a pas d'angle. C'est une approche complètement différente. Le contenu est différent, la technologie est évidemment différente. Et la réalité, le contenu, est différent parce que la méthode n'est pas la même.
Mais
parfois, je considère que je filme comme le ferait un anthropologue. Je filme ce qu'il y a devant moi. Cela dit, il y a des exceptions. Imaginons qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que parfois, je danse avec l'événement. Donc, il y a une espèce de chant, de poésie.
You know, I don't know for what reason, but I have to film it. I have to.
Je ne m'explique pas toujours pourquoi, mais il y a des choses que je dois filmer avec ma caméra. Je sens qu'il faut que je filme ce moment.
So it's so different from, you know, having a script and actors.
C'est différent du travail qui consiste à avoir un scénario, des comédiens, faire plusieurs prises, choisir l'emplacement de la caméra, les différents angles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qui vous force à regarder la réalité. Et cette réalité, j'essaye de la saisir au moment où elle se déroule. Donc je me sens tout à fait mal. Je ne me sens pas légitime à imposer quoi que ce soit. Il faut que la réalité se déroule d'elle-même.
Est-ce que je peux vous demander de feuilleter le livre devant vous et de choisir deux images et de nous les décrire?
Choose two.
Okay, here is one. It's an image where
voilà.
I'm on from actually reminiscences of a journey to Lithuania. This image
souvenir
is
d'un voyage en Lituanie, c'est donc un film. On voit trois images en couleur sur la page.
Et
l'un des souvenirs qui m'est revenu lorsque j'étais là, c'était le souvenir de mes frères et moi lors de l'été. Nous étions en train de faucher les herbes. Nous n'avons pas de machines modernes. Nous sommes en train de faucher avec une faux.
In the fields, and sometimes
nous sommes dans les champs Et de temps en temps, avec la faux, on peut tomber sur une ruche enfouie dans les herbes. Donc on se dit c'est dangereux, mais évidemment on peut recueillir le miel, c'est formidable.
Donc
ce moment-là, j'essaye de le faire revenir à la surface. Donc c'est là, je me vois là dans mon village en train de faucher l'herbe. En 1970, il ne restait pas grand-chose du village d'ailleurs.
Et alors une autre peut-être?
There's so many here. Here is... Okay, it had happened here. An image of John Lennon and Yoko Ono.
Alors là, ce sont des images de John Lennon et Yoko Ono.
Actually, it was in December 1970.
Décembre 1970.
They came back to New York.
Ils étaient en déplacement. Ils reviennent à New York.
Je leur ai dit que j'organisais
un petit festival de films de fin d'année. Et je leur ai demandé si je pouvais avoir un film de leur part pour mon festival. Yoko m'a dit, non, je vais vous en donner un nouveau, on va tourner quelque chose. Et moi j'ai dit, mais vous n'avez que 5 jours pour tourner. Elle a dit, c'est pas grave, on va faire ça en 5 jours. Donc, Yoko a demandé à 200 ou 300 de ses amis de venir dans un studio où elle avait installé une caméra et elle a filmé les jambes. C'est le nom du film, Legs. Tout le monde est venu parce qu'évidemment tout le monde aimait Yoko et John Lennon. Et dans mon livre, je donne la liste dont les gens ont été filmés dans ce petit film de Yoko Ono. On voit la liste de leurs amis admirateurs. Donc là, on est à New York en 1970. Ils ont décidé, John et Yoko, de filmer leurs jambes aussi. Donc ces images, ces trois images que l'on voit, sont des images qui représentent leurs jambes. C'est leurs jambes vues de dos. Bon, les jambes, et puis on remonte un petit peu aussi. En fait, c'était un chouette moment. On a tous passé de très bons moments. C'était un moment heureux. On s'est rassemblés entre amis. Tous ces vieux amis étaient venus. Il y avait de nouveaux amis qui sont venus aussi.
C'est
ça qui m'intéresse dans mes films. Je n'aime filmer que des moments heureux.
Montrer
des aspects sombres de la vie, ça ne m'intéresse pas. On en a déjà trop. Moi, je veux montrer non pas des choses qui forcent à rire, mais je veux que les spectateurs puissent sourire, même à l'intérieur d'eux-mêmes. Le dernier film d'Agnès Varda, d'ailleurs, c'est un film dont on sort heureux. J'aime beaucoup ce film d'Agnès Varda.
The joyful aspects of
on voit
you celebrate
les
life.
Aspects you joyeux de la vie, une sorte d'ode à la vie, on célèbre la vie.
That's what I want to do.
Et c'est ça que je veux faire.
Je
crois que la caméra a été inventée pour célébrer toutes les créations de Dieu.
Not to make money,
et pas pour gagner de l'argent, pour célébrer la réalité dans laquelle nous vivons.
Est-ce qu'on termine avec une dernière image, Jonas Mekas?
One more. Here is from my trip to Adela, Spain. A little the children in one of the.
Là, c'est mon voyage en Espagne.
Little, piazzas there in Avila.
Avila, en Espagne, il y a une petite place et là il y a des enfants, les plus beaux enfants que j'ai jamais vus, ils étaient en train de jouer sur cette place et du reste j'ai tourné un petit film de 3 minutes. Nous sommes en 1966. Quand je suis revenu à Villa il y a 4 ou 5 ans, c'était complètement différent. Le village s'était étendu. Néanmoins, c'était resté une bourgade très paisible. J'y suis allé parce que le hasard a voulu que
Santa Teresa's
je me vois donner l'autobiographie de Sainte Thérèse. C'est une description étonnante. De la vie de Sainte Thérèse d'Avila, donc toute son œuvre de création de couvents et tout ce qu'elle a fait.
I remember most big, like very importantly that okay Santa Teresa known as
Saint Thérèse d'Avila évidemment c'est une sainte on la connaît comme telle néanmoins like dans ce livre j'ai appris qu'elle était constamment en proie aux doutes et aux dépressions. Sainte Thérèse se demandait si elle était sur la bonne voie.
To the travel, to et ça, c'est the Sufis, all the Sufis,
essentiel pour tous ces voyageurs. Les Soufis n'étaient jamais sûrs de leurs agissements. En effet, il faut constamment essayer d'aller de l'avant.
If you de want même, to be, let's say, an artist or a filmmaker,
de
for
même
myself,
pour l'artiste ou le cinéaste,
open,
moi, je veux toujours rester ouvert. Je ne veux jamais barrer l'accès à ce qui peut venir, qu'il s'agisse d'idées, d'images, parce que dans cette société, on est agressé, on est entouré de laideurs, de lucre, de problèmes d'emploi. Et tout cela, ça vous vide. Et on est constamment agressé. Par conséquent, il faut lutter pour rester aussi pur et ouvert que possible pour réagir au moment et aux événements qui se produisent.
John Lennon et Andy Warhol
avaient cela en eux. Intuitivement, ils étaient tous deux très ouverts, ils savaient improviser. C'est pourquoi Andy Warhol disait toujours « oui, oui » et tout le monde allait à la factory parce que Andy Warhol était toujours ouvert, il approuvait de tout, il était encourageant envers les autres, il avait un aspect un peu paternel. Et chez John Lennon, pas tellement chez Yoko, elle se maîtrise davantage, mais John et Andy étaient tous les deux ouverts au présent. Ils permettaient que tout puisse se produire en eux et avec eux. Et pour moi, c'est une leçon. Il faut que je m'améliore. Eux, pour eux, c'était complètement spontané. Alors voilà, c'était comme ça, John Lennon et Andy Warhol.
A Dance with Fred Astaire, publié aux éditions Anthologie, c'est le grand
Fred Astaire was always ready to dance.
Toujours prêt à danser, celui-là.
C'est le titre de ce grand et très beau livre, Jonas Mekas, composé de photographies et de textes. On peut aussi voir un accrochage de photographies à la galerie Agnès B. à Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jonas Mekas, et merci à Xavier Combes de vous avoir traduit. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le musicien Raphaël Humbert. Au son ce soir, c'était Alain Joubert, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci en passant à Antoine Villouze de la discothèque de Radio France pour ses grandes oreilles. À la préparation, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre. Et quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter. Run, 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 take a track or two. Run, 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 gypsy death in you. Tell you what to do.